Chapitre 2 Le second cri. Caleb Plummer et sa fille aveugle habitaient seuls ensemble, comme disent les livres de contes. Je bénis ces livres, et j'espère que vous les bénirez comme moi de ce qu'ils racontent quelque chose de ce monde prosaïque. Donc Caleb Plummer et sa fille aveugle habitaient seuls ensemble, dans une petite baraque en bois, appuyée contre la maison de Grove et Tackleton, qui faisait l'effet d'une verrue sur un nez. La maison de Grove et Tackleton était celle qui faisait le plus de figure dans toute la rue, tandis que vous auriez démoli en deux coups de marteau toute la baraque de Caleb, et vous en auriez emporté tous les débris sur une seule voiture. Si quelqu'un avait arrêté ses yeux pour honorer d'un regard la place de la masure de Caleb Plummer, ce n'aurait été sans doute que pour en approuver la démolition pour cause d'embellissement de la rue, car elle faisait sur la maison de Grove et Tackleton l'effet d'une excroissance telle qu'une verrue sur un nez, un coquillage sur la carène d'un navire, un clou sur une porte, un champignon sur la tige d'un arbre. Mais c'était de ce germe qu'était sorti le tronc superbe de Grove et Tackleton. Sous ce toit crevassé, l'avant-dernier Grove avait commencé sur une petite échelle la fabrique de joujoux pour des garçons et des filles, maintenant devenus vieux, qui en avaient joué, qui les avaient brisés et qui avaient été dormir. J'ai dit que Caleb et sa pauvre fille aveugle habitaient là, mais j'aurais dû dire que Caleb habitait là et que sa fille habitait ailleurs. Elle habitait une demeure enchantée par le talent de Caleb, où la pauvreté, le dénuement et les soucis ne pénétraient jamais. Caleb n'était pas sorcier, mais il possédait là son art magique réservé aux hommes, la magie du dévouement et l'amour sans bornes. La nature avait été sa seule maîtresse et lui avait enseigné à produire tous ses enchantements. La fille aveugle n'avait jamais su que le plafond était sale, les murs décrépits et lézardés, et laissant à l'air des passages de plus en plus nombreux, que les solives vermoulues étaient prêtes à s'effondrer, que la rouille mangeait le fer, la pourriture le bois et la moisissure le papier, enfin que le délabrement de la masure s'aggravait chaque jour. Elle ne sut jamais que la table à manger ne portait qu'une vaisselle ébréchée, que le découragement et les chagrins attristaient la maison et que les cheveux de son père blanchissaient à vue d'œil. Elle ne sut jamais qu'ils avaient un maître froid, exigeant et intéressé. Elle ne sut jamais en un mot que Tackleton était Tackleton, mais elle vivait dans la croyance que, dans son humeur excentrique, il aimait à plaisanter avec eux, et qu'étant leur ange gardien, il dédaignait de leur dire une parole de remerciement. Tout cela était l'œuvre de Caleb, l'œuvre de son brave homme de père. Mais il avait aussi un grillon dans son foyer, et pendant qu'il écoutait avec tristesse sa musique, autant que sa pauvre aveugle sans mère était jeune, cet esprit lui inspira la pensée que cette funeste privation de la vue pourrait être changée en bonheur, et que sa fille pourrait être rendue heureuse par ses petits moyens. Car tous les êtres de la tribu des grillons sont de puissants esprits, quoique ceux qui conversent avec eux ne le sachent pas le plus souvent. Il n'y a pas dans le monde invisible de voix plus aimables et plus vraies, sur lesquelles on puisse mieux compter, et qui donnent des conseils plus affectueux que les voix du foyer et du coin du feu quand elles s'adressent à l'espèce humaine. Caleb et sa fille étaient ensemble à l'ouvrage, dans leur chambre d'habitude, qui leur servait à tous les usages de la vie, et c'était une étrange pièce. Il y avait là des maisons à divers degrés de construction pour des poupées de toutes les conditions. Des maisons modestes pour les poupées de fortune médiocre, des maisons avec une chambre et une cuisine seulement pour les poupées de basse classe, des maisons somptueuses pour les poupées du grand monde. Plusieurs de ces maisons étaient meublées d'une manière analogue à leur destination. D'autres pouvaient l'être sur un simple avis, et il ne fallait pas aller loin pour trouver des meubles. Les personnages de tout rang à qui ces maisons étaient destinées étaient là, couchés dans des corbeilles, les yeux fixés au plafond. Ils n'y étaient pas pêle-mêle, mais réunis d'après leur rang, et les distinctions sociales y étaient encore plus marquées que dans le monde réel, où elles se trouvent beaucoup plus dans le vêtement que dans le corps. Et souvent un corps qui serait fait pour une classe élevée n'est couvert que d'un vêtement appartenant à la classe la plus humble. Ici, la noblesse avait des bras et des jambes de cire, la bourgeoisie n'avait les membres qu'en peau et le peuple qu'en bois. Outre les poupées, il y avait bien d'autres échantillons du talent de Caleb Plummer. Dans sa chambre, il y avait des arches de Noé, où les animaux étaient entassés de manière à tenir le moins de place possible et à supporter des secousses sans se casser. La plupart de ces arches de Noé avaient un marteau sur la porte, appendice peu naturel, mais qui ajoutait un ornement gracieux à l'édifice. On y voyait des vingtaines de petites voitures, dont les roues, quand elles tournaient, faisaient entendre une musique plaintive. On y voyait de petits violons, de petits tambours et autres instruments de torture pour les oreilles des grandes personnes, tout un arsenal de canons, de fusils, de sabres et de lances. On y voyait de petits saltimbanques en culottes rouges, franchissant des obstacles en ficelles rouges et descendant de l'autre côté, la tête en bas, les pieds en l'air. On y voyait des vieux à barbe grise, sautant comme des fous par-dessus des barrières horizontales, placées exprès au travers de la porte de leur maison. On y voyait des animaux de toute espèce et des chevaux de toutes les races, depuis le grison juché sur quatre chevilles planté dans son corps en guise de jambe, jusqu'au magnifique cheval de course prêt à gagner le prix du roi au grand derby. Il aurait été facile de compter les nombreuses douzaines de figures grotesques qui étaient toujours prêtes à commettre toute espèce d'absurdité à la première impulsion d'une manivelle, de sorte qu'il n'aurait pas été aisé de citer une folie, un vice, une faiblesse qui n'eût pas son type exact ou approchant dans la chambre de Caleb Plummer. Et ce n'était pas sous une forme exagérée, car il ne faut pas de fortes manivelles pour pousser les hommes et les femmes à faire des actes aussi étranges que jamais jouet d'enfant a pu en exécuter. Au milieu de tous ces objets, Caleb et sa fille étaient assis et travaillaient. La jeune aveugle habillait une poupée et Caleb peignait et vernissait la façade d'une charmante petite maison. L'air soucieux imprimé sur les traits de Caleb, sa physionomie rêveuse et absorbée qui aurait convenu à un alchimiste et à un savant profond, faisait au premier abord un contraste frappant avec la trivialité de son occupation. Mais les choses triviales que l'on fait pour avoir du pain deviennent au fond des choses sérieuses. Et je ne saurais dire, Caleb eût-il été Lord Chambellan ou membre du Parlement, un avocat, un grand spéculateur, s'il aurait passé son temps à faire des choses moins bizarres, tandis que je doute fort qu'elles eussent été moins innocentes. Vous avez donc été à la pluie hier soir, père, avec votre belle redingote neuve, lui dit sa fille. Avec ma belle redingote neuve, répondit Caleb, en jetant sur la corde où séchait suspendue la vieille souquenille de toile d'emballage que nous avons décrite. Oh, que je suis heureuse que vous l'ayez achetée, père. Et à un tel tailleur encore, dit Caleb. Le tailleur le plus à la mode, elle est trop belle pour moi. La jeune aveugle quitta son ouvrage et se mit à rire avec bonheur. « Trop belle, père, mais qu'est-ce qui peut être trop beau pour vous ?» Je suis presque honteux de la porter, dit Caleb en voyant l'effet de ses paroles sur le visage épanoui de sa fille. Lorsque j'entends les enfants et les gens dire derrière moi « Oh, c'est un élégant !» je ne sais plus de quel côté regarder. Et ce mendiant qui ne voulait pas s'en aller hier au soir, il ne voulait pas me croire quand je l'assurais que j'étais un homme du commun. « Non, votre honneur, m'a-t-il dit, que votre honneur ne me dise pas cela. » J'en ai été tout confus, et il me semblait que je ne devais pas porter un habit aussi beau. Heureuse aveugle, quelle joie elle avait dans son cœur. Oh, « je vous vois, père, » dit-elle en frappant des mains, « je vous vois aussi distinctement que si j'avais des yeux que je ne regrette jamais quand vous êtes à mes côtés. » Un drap bleu. Oh, d'un beau bleu, dit Caleb. Oui, oui, d'un bleu éclatant, s'écria la jeune aveugle en tournant sa figure radieuse, la couleur que je me rappelle avoir vue dans la félicité du ciel. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était un bel habit bleu. Eh bien fait pour la taille, dit Caleb. Ah oui, bien fait pour la taille, s'écria la jeune aveugle en riant de bon cœur. « Oh, je vous vois, mon cher père, avec vos beaux yeux, votre jeune figure, votre démarche leste, vos cheveux noirs, votre air jeune et gracieux. »« Allons, allons, » dit Caleb, « vous allez me rendre fier maintenant. »« Je crois que vous l'êtes déjà, » s'écria-t-elle en le montrant du doigt. « Je vous connais, mon père, je vous ai deviné. » Quelle différence entre le portrait qu'elle s'en faisait dans son imagination et le vrai Caleb. Elle avait parlé de sa marche dégagée. En cela, elle ne s'était pas trompée. Depuis de nombreuses années déjà, il n'était jamais entré dans sa maison de son pas naturel et traînant, mais il l'avait contrefait pour tromper les oreilles de sa fille. Et les jours même où il était le plus triste et le plus découragé, il n'avait jamais voulu attrister le cœur de son enfant et avait toujours passé le seuil de la porte d'un pas léger. Dieu le savait, mais je pense que le regard vague et l'air égaré de Caleb devait provenir de cette confusion qu'il avait faite à dessein de toutes les choses qui l'entouraient pour l'amour de sa fille aveugle. Comment le pauvre homme n'aurait-il pas été un peu égaré après avoir détruit sa propre identité et celle de tous les objets qui l'entouraient. Allons, tout cela, dit Caleb en se levant un moment après s'être remis au travail et en reculant de deux pas pour mieux se rendre compte de la perspective, tout cela est aussi exact que 6 fois de liard peuvent faire 6 sous. C'est dommage que la maison vous présente une façade de tous les côtés. Si au moins il s'y trouvait un escalier pour pouvoir circuler dans les divers appartements. Mais voilà que je me fais encore illusion et que je crois à la réalité de tout cela. C'est le mauvais côté de mon métier. Vous parlez tout à fait bas, mon père. Seriez-vous fatigué ? Fatigué ? S'écria Caleb avec beaucoup d'animation. Qu'est-ce qui pourrait me fatiguer, Berthe ? « Je ne fus jamais fatigué. Que voulez-vous dire ?» Pour donner une plus grande force à ses paroles, Caleb, bien sans le vouloir, s'était mis à imiter 2 bons hommes qui se trouvaient sur la cheminée et qui s'étiraient les bras en bâillant, puis il se mit à fredonner un fragment de refrain. C'était une chanson bachique qui fit encore un plus grand contraste avec sa figure naturellement maigre et triste. « Comment, je vous trouve en train de chanter ?» dit M. Tackleton en arrivant et en y montrant sa tête entre la porte. « Oh, cela va bien, chanter. Je ne chante pas, moi. » Personne, certes, ne l'aurait soupçonné de chanter. Il n'avait pas une figure qui en eût l'air le moins du monde. « Je ne pourrais chanter, non, » continua M. Tackleton. « Je suis charmé que vous le puissiez, vous. J'espère que vous pouvez travailler également. Vous avez du temps de reste pour travailler et pour chanter, il paraît. Si vous pouviez seulement le voir, Berthe, murmura Caleb à l'oreille de sa fille, quel homme joyeux! Vous croiriez qu'il vous parle sérieusement, et vous ne le connaissez aussi bien que moi. La jeune aveugle sourit en remuant la tête en signe d'assentiment. On dit qu'il faut s'appliquer à faire chanter l'oiseau qui ne chante pas, grommela M. Tackleton. Mais lorsque le hibou, qui ne sait pas et qui ne doit pas chanter, veut chanter, que doit-on faire? Oh, si vous pouviez le voir en ce moment, dit Caleb à sa fille encore plus doucement. Oh, qu'il est gracieux! Vous êtes donc toujours agréable et gai avec nous, s'écria Berthe en souriant. Oh, voilà vous, répondit Tackleton. Pauvre idiote! Il s'était mis réellement dans la tête qu'elle était idiote, et se fondait peut-être dans cette opinion sur la gaieté et l'affection qu'on lui témoignait. « Bien, vous êtes là. Comment allez-vous ? » lui dit Tackleton de sa voix brusque. « Oh, bien, complètement bien. Je suis si heureuse quand vous venez de me voir. Je vous souhaite autant de bonheur que vous voudriez que les autres en eussent, si c'est possible. » « Pauvre idiote !» murmura Tackleton. « Pas un rayon, pas une lueur de raison. » La jeune aveugle prit sa main et la baisa. Elle la garda un moment entre les siennes et appuya tendrement une de ses joues avant de l'abandonner. Il y avait une telle affection et une si grande reconnaissance dans cet acte que Tackleton lui-même fut ému de le voir et lui dit, plus doucement que d'habitude, « Quelles affaires avons-nous maintenant ?»« Oh, je l'ai enfermé sous mon oreiller en allant me coucher hier au soir, » dit Berthe, « et je me le suis rappelé en rêvant. Et lorsque le jour est venu et l'éclatant soleil rouge, le soleil rouge, père. »« Oh, rouge le matin comme le soir, Berthe !» répliqua le pauvre Caleb en levant un triste regard vers celui qui le faisait travailler. Quand il est venu, quand j'ai senti dans la chambre cette chaleur et cette lumière, il m'a semblé que j'allais m'y heurter en marchant. Alors j'ai tourné vers lui le petit arbuste en remerciant Dieu qui a fait des choses aussi précieuses. Et en vous remerciant, vous, qui me les avait envoyés pour être agréable. Bah, aussi folle qu'une échappée de bedlam, dit Tackleton entre ses dents. Nous allons être forcés d'en venir aux menottes et aux camisoles de force. Oh, ce ne sera pas long. Caleb, les mains croisées et pendantes, regardait fixement celle qui venait de parler et se demandait si réellement il doutait de cela. Tackleton avait fait quelque chose pour mériter ses remerciements. Il eût été très, très difficile à Caleb de décider en ce moment, fût-il menacé de mort, s'il devait tomber aux genoux du marchand de joujoux ou le chasser de chez lui à grands coups de pied. Caleb savait bien cependant que c'était lui qui avait apporté à sa fille le petit rosier et que c'était lui qui avait inventé l'innocente déception, qui avait empêché Berthe de se douter de toutes les choses dont il se privait chaque jour, afin de la rendre moins malheureuse. « Berthe, » dit Tackleton, affectant pour une fois un peu de cordialité, « venez ici. »« Oh, je puis aller droit à vous, sans que vous ayez besoin de me guider, » répondit-elle. « Vous dirai-je un secret, Berthe ?»« Oh, si vous le voulez, » répondit-elle avec empressement. Comme il s'illumina ce visage obscurci, comme cette figure devint joyeuse et attentive. C'est bien aujourd'hui que cette petite, comment est son nom, cet enfant gâté, la femme de Peerybingle, vous fait sa visite habituelle. C'est bien ce soir, n'est-ce pas ? Dit Tackleton avec une expression de répugnance pour la chose dont il parlait. Oui, répondit Berthe, c'est bien aujourd'hui. Ah, je le savais, dit Tackleton. Je désirerais me joindre à votre partie. Avez-vous entendu cela, père ? S'écria la jeune aveugle avec transport. Oui, oui, je l'ai entendu, murmura Caleb avec le regard fixe d'un somnambule. Mais je ne le crois pas. C'est un de mes mensonges, sans aucun doute. Oui, vous, je voudrais réunir dans votre société les Peerybingle avec May Fielding, dit Tackleton. Je fais des démarches pour me marier avec May.
Vous mariez ? S'écria la jeune aveugle en tressaillant devant lui.
Elle est tellement idiote, murmura Tackleton, que je ne m'attendais pas à ce qu'elle me comprît.
Oui, Berthe, me marier. L'église, le prêtre, le clerc, le bedeau, la voiture à glace, les cloches, le repas, le gâteau de mariage, les rubans, les os à moelle, les couteaux et tout le reste de ces folies. Une noce, vous savez, une noce. Ne savez-vous pas ce que c'est qu'une noce ?
Oh, je le sais, répondit doucement la jeune aveugle. Je comprends.
Vraiment, murmura Tackleton, c'est plus que ce que j'attendais. Bien, alors c'est pour cette raison que je veux faire partie de votre réunion et y amener May ainsi que sa mère. Je vous enverrai pour ce soir quelques petites choses, un gigot de mouton ou quelque autre plat confortable. Vous m'attendrez ?
Oh, oui, répondit-elle.
Elle avait laissé tomber sa tête et s'était retournée. Et elle demeurait les mains croisées, rêveuse.
Je pense que vous m'avez bien compris, dit Tackleton en s'adressant à elle, car vous semblez avoir oublié ce que je vous ai dit. Caleb,
je me hasarderai à dire que je suis ici, je suppose, pensa Caleb.
Monsieur, ayez soin qu'elle n'oublie pas ce que je lui ai dit.
Oh, elle n'oublie jamais, répondit Caleb. C'est une des qualités qui sont parfaites chez elle.
Chaque homme s'imagine que les oies qui lui appartiennent sont des cygnes, observa le marchand de joujoux en haussant les épaules. Pauvre diable ! S'étant délivré lui-même de cette remarque avec un mépris infini, le vieux Gruffel Tackleton sortit. Berthe resta où il l'avait laissé, perdu dans ses réflexions. La gaieté s'était évanouie de son visage baissé, et elle était bien triste. Trois ou quatre fois, elle secoua la tête comme si elle regrettait quelque souvenir ou quelque perte. Mais ses tristes réflexions ne se révélèrent par aucune parole. Caleb avait été occupé pendant ce temps à joindre le timon des chevaux à un wagon par un procédé sommaire, en clouant le harnais dans les parties vives de leur corps, lorsqu'elle se dressa tout à coup de sa chaise et venant s'asseoir près de lui, elle lui dit « Mon père, je suis dans la solitude des ténèbres. J'ai besoin de mes yeux patients et pleins de bonne volonté. »
« Voici vos yeux, dit Caleb, ils sont toujours prêts. Ils sont plus à vous qu'à moi, Berthe. Et à chaque heure des 24 heures, que voulez-vous faire de vos yeux, ma chère ?
Regardez autour de la chambre, mon père.
C'est fait, dit Caleb. Vous n'avez pas plutôt parlé que c'est fait, Berthe.
Dites-moi ce que vous voyez ici autour.
Tout est la même chose qu'à l'ordinaire, dit Caleb, grossier mais bien conditionné. de gaies couleurs sur les murs, de brillantes fleurs sur les plats et les assiettes, des bois polis et des poutres et des panneaux luisants. La maison respire partout l'enjouement et la gaieté, et est vraiment fort gentille. Elle était agréable et gaie partout où les mains de Berthe avaient l'habitude et pouvaient atteindre. Mais il n'en est pas ainsi des autres endroits. Il n'était nullement gai ni agréable, il n'était pas possible de le dire, quoiqu'ils eussent été si bien transformés par Caleb. Vous avez votre habit de travail, et vous n'êtes pas si élégant qu'avec le bel habit bleu, dit Berthe en touchant son père.
Non, pas si élégant, répondit Caleb, mais assez joli, cependant.
Mon père, dit la jeune aveugle en se rapprochant tout à fait de lui et passant un de ses bras autour de son cou, dites-moi quelque chose de May. Elle était bien jolie, n'est-ce pas?
Elle était, certes, dit Caleb, vraiment jolie. Et c'était une chose tout à fait rare pour lui cette fois de ne pas avoir besoin de recourir à ses inventions habituelles.
Ses cheveux sont noirs, dit Berthe pensivement, plus noirs que les miens. Sa voix est douce et pleine d'harmonie, je m'imagine. J'ai souvent aimé à l'entendre. Sa taille.
Oh, il n'y a pas une seule poupée dans la salle qui puisse l'égaler, dit Caleb, et ses yeux.
Il s'arrêta, car Berthe avait resserré encore plus ses bras autour de son cou, et il ne comprit que trop bien ce pressant avertissement. Il toussa un moment, il hésita un moment, et se mit à entonner sa chanson à boire, sa ressource infaillible dans les moments difficiles. Notre ami, mon père, notre bienfaiteur, je ne suis jamais fatigué de savoir ce qui le concerne. En ai-je jamais été fatigué ? Dit-elle rapidement.
Non, certainement, répondit Caleb, et avec raison.
Ah, avec tant de raison, s'écria la jeune aveugle d'un ton si ardent, que Caleb, quoique ses motifs fussent si purs, n'eut pas le courage de la regarder en face, mais baissa les yeux comme si elle avait pu s'apercevoir de son innocente tromperie. Alors, « parlez-moi encore de lui, mon cher père, dit Berthe, parlez-m'en souvent. Sa figure est bienveillante, bonne et tendre. Elle est honnête et vraie, j'en suis sûr. Ce cœur généreux qui dissimule tous ses bienfaits sous une apparence de répugnance et de rudesse se trahit dans ses regards, sans doute. »
Et il lui donne un air noble, ajouta Caleb dans son désespoir tranquille.
Il lui donne l'air noble, s'écria la jeune aveugle. Il est plus âgé que May, père.
Oui, dit Caleb en hésitant et comme malgré lui. Oui, il est un peu plus âgé que May, mais cela ne signifie rien.
Oh, mon père, oui. Être sa compagne patiente dans les infirmités de son âge, être sa garde malade agréable dans ses maladies et son amie constante dans ses souffrances et dans ses chagrins, ne pas connaître la fatigue quand on travaille pour l'amour de lui, le veiller, le soigner, s'asseoir auprès de son lit et faire la conversation avec lui à son réveil et prier pour lui pendant son sommeil. Quel privilège elle aura! Quelles occasions de lui prouver sa fidélité et son dévouement! Fera-t-elle tout cela, mon cher père?
Oh, je n'en doute point, dit Caleb.
J'aime May, mon père. Je puis l'aimer du fond de mon âme, s'écria la jeune aveugle. Et en disant ces paroles, elle approcha du visage de Caleb sa pauvre figure privée de lumière, et pleura tellement que celui-ci fut presque fâché de lui avoir procuré ce bonheur plein de larmes. Pendant ce temps, Il y avait eu chez John Peerybingle une assez notable commotion, car naturellement la petite Mrs. Peerybingle ne voulait pas aller dehors sans avoir avec elle le bébé, et mettre le bébé en état de sortir prenait du temps. Non pas que ce fût beaucoup de choses, que le bébé comme poids, mais avant d'avoir tout préparé pour lui, cela n'en finissait point, et il n'était pas utile de se presser. Par exemple, lorsque le bébé fut habillé et crocheté jusqu'à un certain point, et que vous auriez pu raisonnablement supposer qu'il manquait une touche ou deux pour achever sa toilette et en faire un bébé présentable à tout le monde, il fut inopinément coiffé d'un bonnet de flanelle et porté au berceau. Alors il sommeilla entre deux couvertures pendant la plus grande partie d'une heure. De cet état d'inaction, il fut ramené tout à fait resplendissant et rugissant violemment pour avoir sa part, s'il est permis de m'exprimer ainsi qu'on le fait généralement, d'un léger repas. Après cela, il alla dormir de nouveau. Mrs. Peerybingle mit à profit cet intervalle pour se faire aussi belle que chacun de vous peut penser qu'une jeune femme puisse le faire, et pendant cette courte trêve, Miss Lobody s'insinua elle-même dans un Spencer d'une confection si surprenante et si ingénieuse qu'il ne semblait avoir été fait ni pour elle ni pour aucune autre personne de l'univers et qui pouvait poursuivre sa course solitaire sans attirer le moindre regard de personne. Pendant ce temps, le bébé, bien éveillé, était paré par les efforts réunis de Mrs. Peerybingle et de Miss Lobody d'un manteau couleur de lait pour son corps et d'une espèce de bonnet nankin. Ce ne fut qu'alors que tous trois sortirent. Le vieux cheval, pendant une heure, s'était occupé à creuser et dégrader la route de ses impatients autographes pour la valeur du droit à payer à la barrière, et par la même raison, Boxer se montrait dans une lointaine perspective, attendant immobile et jetant un regard en arrière sur le cheval comme s'il voulait le tenter de prendre la même route que lui et de partir sans ordre. Quant à une chaise ou à toute autre espèce d'aide pour placer Mrs. Peerybingle dans la voiture, vous connaissez vraiment peu John, je m'en flatte, si vous croyez que cela lui fût nécessaire. Avant que vous ayez eu le temps de le regarder, il l'enleva de terre et elle se trouva à sa place, fraîche et rose, qui lui disait « John, comment pouvez-vous penser à Tilly ?» Si je pouvais me permettre de mentionner les jambes d'une jeune personne pour un motif quelconque, je vous ferais observer que celle de Miss Lobody semblait destinée à la singulière fatalité d'être constamment heurtée, et il leur était impossible d'effectuer la moindre montée ou descente sans s'en rappeler la circonstance par une entaille, de même que Robinson Crusoe marquait les jours sur son calendrier de bois. Mais de peur d'être considéré comme impoli, je garde le reste de mes pensées pour moi. « John, avez-vous pris le panier où se trouve le veau et le pâté et les autres choses ?» « Et les bouteilles de bière ?» dit Dot. « Si vous les avez oubliées, il faut aller les chercher à la minute. »«
Vous êtes une délicate petite femme, » répondit le voiturier, « de me dire de retourner après m'avoir fait perdre un quart d'heure de mon temps.
Oh, »« Je suis fâché de cela, John, » dit Dot avec embarras, « mais je ne saurais penser à rendre visite à Berthe. » Je n'irai jamais, John, pour aucune raison, sans le pâté au veau et au jambon, et les autres choses et les bouteilles de bière.
Ouais.
Ce monosyllabe s'adressait au cheval, qui n'y faisait aucune attention.
Oh, arrêtez, ouais, John, dit Mrs. Peerybingle, s'il vous plaît.
Il sera bien temps de l'arrêter, répliqua John, lorsque j'aurai oublié quelque chose. « Mais le panier est là, et suffisamment en sûreté. »«
Quel monstre vous êtes, John, de ne me l'avoir pas dit, et en me sachant si inquiète. »«
Je déclare que je n'irai jamais chez Berthe sans le passer au veau et au jambon, les autres choses et les bouteilles de bière pour rien au monde. Mais régulièrement, tous les 15 jours, depuis que nous sommes mariés, John, nous y avons fait notre petit pique-nique. Si une seule chose devait aller mal dans cette partie, je crois que nous ne serions plus jamais heureux.
C'est une pensée de la première importance, dit le voiturier. Et je vous honore pour cela, petite femme.
Mon cher John, répliqua Dot en devenant vraiment rouge, ne parlez pas de m'honorer, grand Dieu.
À propos, observa le voiturier, ce vieux monsieur.
Elle fut visiblement et instantanément embarrassée.
C'est un singulier original, dit le voiturier en regardant droit devant lui tout le long de la route. Je ne sais que penser de lui. Je ne remarque pourtant rien de dangereux en lui.
Oh, rien du tout. Je suis sûr, tout à fait sûr qu'il n'a rien de dangereux.
Oui, dit le voiturier, les yeux attachés sur son visage et à cause du ton dont elle avait prononcé ces paroles. Je suis satisfait que vous en soyez certaine, parce que cela confirme ma certitude. Il est curieux qu'il se soit mis dans la tête de venir loger chez nous, n'est-ce pas? Il y a des choses parfois si étranges.
Si étranges, répondit Dot d'une voix basse et à peine perceptible.
Cependant, ce vieux gentleman paraît être une bonne nature, dit John, et il paye comme un gentleman. Et je pense qu'on peut se fier à sa parole comme à celle d'un gentleman. J'ai eu ce matin une longue conversation avec lui. Il m'a dit qu'il m'entendait mieux parce qu'il commençait à s'habituer à ma voix. Il m'a parlé de beaucoup de choses qui le concernaient, et je lui ai beaucoup parlé aussi de moi, et il m'a fait quelques rares questions. Je l'ai informé que j'avais 2 chemins à servir, comme vous savez, que je passais un jour par celui de droite et le jour suivant par celui de gauche. Et étant étranger, il a voulu connaître le nom des localités où je passe, et il s'est intéressé à cette nomenclature. Alors, a-t-il dit, ce soir je retournerai par le même chemin que vous, lorsque je croyais que vous feriez votre retour par une direction exactement opposée. C'est important. Je vous embarrasserai de moi peut-être encore une fois, mais je m'engage à ne plus dormir si profondément. C'est qu'il était profondément endormi, sûrement.
Dot, à quoi pensez-vous?
Je pensais, John, je vous écoutais.
Oh, c'est très bien, dit l'honnête voiturier, parce que j'étais effrayé de l'air de votre figure. J'avais peur qu'ayant parlé si longuement, vous ne soyez laissé aller à penser à autre chose. J'étais bien prêt de le penser.
Dot ne répondit pas, et ils roulèrent pendant quelque temps en silence. Mais il n'était pas facile de rester silencieux longtemps dans la voiture de John Peerybingle, car il n'y avait personne qui n'eût quelque petite chose à dire, et quand même, ce n'aurait été que le « comment allez-vous » d'usage. Et le plus souvent, assurément, ce n'était guère davantage. Il fallait pourtant y répondre avec une spirituelle cordialité, non pas simplement par un signe de tête ou par un sourire, mais par une action complète des poumons, tout comme dans une discussion parlementaire à la Chambre. Parfois, des passants à pied ou à cheval voyageaient un petit morceau de chemin auprès de la voiture pour babiller un moment, et alors des deux côtés, beaucoup de paroles étaient échangées. Puis Boxer, quand il s'agissait de reconnaître un ami du voiturier ou de lui faire reconnaître, valait autant qu'une demi-douzaine de chrétiens. Tout le long de la route, chaque être le connaissait, spécialement les poules et les cochons, qui dès qu'ils le voyaient approcher, le corps tout de côté, les oreilles dressées avec curiosité et son morceau de queue se balançant d'un côté et d'autre, se réfugiaient immédiatement dans leur quartier, sans se soucier de l'honneur d'avoir avec lui plus grande acquaintance. Il avait partout une occupation. Il donnait un coup d'œil dans tous les petits chemins,
regardait dans tous les puits, se montrait dans toutes les fermes, se précipitait au milieu de toutes les écoles d'enfants, mettait en déroute tous les pigeons, faisait grossir la queue de tous les chats et faisait son entrée dans tous les cabarets comme une pratique habituelle. Dès qu'il arrivait, le premier qu'il voyait s'écriait « Oh là, voici Boxer !» Et alors quelqu'un sortait aussitôt, accompagné de deux, trois personnes, pour donner le bonjour à John Pirbingle et à sa jolie femme. Les ballots et les petits paquets étaient nombreux pour le voiturier et constituaient pour lui de nombreuses haltes pour l'expédition comme pour la livraison, ce qui n'était pas du reste la plus mauvaise partie de la journée. Une partie des gens attendaient si impatiemment leurs paquets, et d'autres étaient au contraire si surpris de les recevoir, et d'autres aussi étaient si inépuisables dans leurs instructions et leurs recommandations, et John prenait un si grand intérêt à tous les paquets que c'était comme une vraie scène de théâtre. Il y avait également des articles à charrier qui réclamaient une discussion considérable et pour lesquels le voiturier était obligé d'entrer dans une foule de détails avec ceux qui les expédiaient. Boxer assistait habituellement à ces discussions, tantôt paraissant plongé dans une attention et une immobilité profonde, tantôt décrivant avec transport de nombreux cercles en courant autour des discoureurs et aboyant lui-même à s'enrouer. Dot s'amusait de tout cela et en était spectatrice sans quitter sa chaise dans la voiture. Charmant petit portrait encadré par le châssis et la toile et qui ne manquait pas d'attirer des regards d'envie et des paroles prononcées tout bas de la part des jeunes gens qui passaient, je vous le promets. Et John, le voiturier, se réjouissait beaucoup, car il était satisfait de voir sa petite femme admirée par tout le monde, sachant qu'elle n'y faisait guère attention, quoique cependant, elle n'en fut peut-être pas fâchée. Le voyage se faisait par un temps de brume et de froidure, car on était au mois de janvier, cela était sûr. Mais qui pensait à ces bagatelles ? Ce n'était pas Dot, décidément, ce n'était pas Tilly Slobody, qui estimait qu'être assis dans une voiture était le point le plus élevé de la joie humaine. Ce n'était pas le baby, je le jure, car il n'exista jamais une nature de baby comme la sienne, pour avoir chaud et dormir profondément, et pour se trouver heureux dans un endroit ou dans un autre, comme ce jeune Peerybingle.